Sunway Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sunway Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. L'accès aux soins, la répartition territoriale équilibrée des structures de santé, ce sont des thèmes que nous abordons régulièrement dans Priorité Santé. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ces questions, en particulier pour la zone du Sahel, une région qui compte 135 millions d'habitants, des pays caractérisés notamment par leur faible indice de développement, des espaces qui doivent également composer avec le réchauffement climatique, une forte pression démographique et depuis plusieurs années, zone affectée aussi par des conflits, des tensions, des interventions armées qui viennent encore fragiliser davantage les populations qui y vivent. Aujourd'hui, d'après la FAO, 29 millions de personnes y souffrent d'insécurité alimentaire. Et si l'on a vu les dirigeants de la région se mobiliser au travers du G5 Sahel autour d'impératifs sécuritaires, qu'en est-il des politiques de santé publique dans cette région? Et dans quelle mesure justement l'insécurité chronique menace-t-elle, au-delà des questions de souveraineté, les investissements destinés au système de santé déjà fragile? En mai dernier à Genève, les ministres de la Santé s'étaient justement réunis pour insister sur ce point, que ces questions sanitaires soient intégrées aux rencontres du G5 Sahel. Un premier pas qui appelle des actions concrètes pour que les personnels de santé réintègrent des territoires parfois négligés, mais aussi pour que des partenariats se développent et que les réponses apportées s'adaptent aux spécificités locales. Une problématique qui était au centre de la conférence organisée hier à Paris par l'Agence française de développement et Expertise France. Conférence organisée à Paris et intitulée « Santé et sécurité des populations au Sahel, quels nouveaux modes opératoires en contexte de crise ?» Et pour évoquer les interactions justement entre santé et sécurité au travers d'expériences et de projets dans cette zone qui couvre donc Mali, Mauritanie, Tchad, Niger et Burkina Faso, en studio avec nous, Élise Le Sieur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable santé au siège de Première Urgence Internationale. Autour de cette table également, Dionke Fonfana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du pôle renforcement des systèmes de santé à Expertise France. Et avec nous, Christophe Paquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la division santé et protection sociale à l'Agence française de développement. Tout à l'heure, en ligne du Mali, on va retrouver le docteur Gédéon Kivila, chef de mission pour l'ALIMA au Mali, Alliance for International Medical Action, et coordinateur général du projet commun ALIMA-AMCP, l'ONG malienne Alliance Médicale contre le paludisme. En fin d'émission, nous retrouverons la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Lorsque l'on parle du G5 Sahel, on pense bien sûr sécurité, lutte antiterroriste régionale, G5 Sahel, Alliance Sahel, un mécanisme de renforcement de la coordination des partenaires, des partenariats pour cibler des zones vulnérables. Et dans ce contexte, eh bien, les États, leurs partenaires financiers, ont donc insisté le mois dernier sur le fait que les préoccupations en termes de sécurité ne devaient pas occulter les impératifs de santé publique, en particulier l'accès aux soins. La question, c'est donc de savoir ce qui, au-delà des déclarations, peut être fait, et puis bien sûr ce qui est déjà engagé sur le terrain. Dionke Fofana, lorsque l'on parle de cette région, plus généralement de toute la zone de l'Afrique de l'Ouest, on met toujours en avant les disparités territoriales. Déjà, on va dire, en temps de paix, ce n'est pas simple toujours d'accéder aux soins en zone rurale.
Oui, avant même les conflits, on sait que ces pays sont confrontés à des déserts médicaux. Et pour preuve, quand on part sur ce que dit l'OMS, 23 personnels de santé pour 10 000 populations, on voit quand même que dans un pays comme le Mali, dans sa partie nord septentrionale, quand on voit les chiffres, on se rend compte qu'il y a 3 personnels médicaux pour 10 000 habitants. Personnel médical s'entend par médecins, sages-femmes, infirmiers, tous les corps médicaux qui travaillent au sein d'un service de santé.
Alors, des structures médicales qui sont plutôt bien implantées dans la capitale, même si là aussi il peut y avoir des progrès à faire, et puis d'importantes carences en milieu rural, avec donc, Dionke Fofana, l'insécurité, facteur aggravant une véritable réalité pour la zone du Sahel.
Bien sûr, juste quelques chiffres. Hein. Quand on prend un pays comme le Niger, on voit que 50% du personnel de santé sont consacrés dans la capitale pour traiter 15% de la population. Ça, c'est en temps de paix. Mais en temps de crise, une zone comme le Mali, dans sa zone septentrionale, ou le Tchad au Grand Nord, ou même au Burkina Faso. Et récemment, on était avec le ministre de la Santé du Burkina Faso, qui a aisément dit, mais avec toute la difficulté que cela peut comporter, que le Burkina Faso a un besoin aujourd'hui de 1800 centres de santé de base. Et environ 20 000 personnels de santé manquent encore au Burkina Faso. Donc, en temps de conflit qui dénature complètement le service de santé, qui désorganise le système de santé, et aussi l'accès aux soins devient aléatoire.
Avec justement Christophe Paquet, pour développer ce même sujet, cet état des lieux qui fait que certains services essentiels manquaient avant même le déclenchement des conflits.
Oui, la situation était déjà complexe et difficile avant le déclenchement des conflits. Et donc, on assiste aujourd'hui à un certain nombre de fragilités supplémentaires. On a des populations déplacées importantes dans cette zone, plus de 3 millions de personnes. On a un impact sur la production alimentaire, que ce soit l'élevage ou l'agriculture, avec des conséquences sur la malnutrition. On a un impact sur les approvisionnements en médicaments, en intrants de base. Et puis, la question essentielle, c'est effectivement celle des personnels de santé, de comment aujourd'hui maintenir des personnels de santé dans des zones difficiles, dans des zones qui en plus aujourd'hui sont la cible d'attaques. Et on voit que ces services de base aux populations, que ce soit la santé ou l'éducation, sont en fait aussi une cible dans ces mouvements terroristes et autres que l'on observe dans la région.
Tout à l'heure, Dionkié Fofana, vous citiez ces chiffres pour le nord du Mali. Est-ce que vous avez justement des observations, un état des lieux fiable pour savoir comment les choses ont évolué, si ça s'est dégradé, une carte pour ces différents pays, combien de personnel, combien de centres de soins, quel type de soins accessibles?
Quel type de soins accessibles? D'abord, je dirais un grand bravo et un grand merci aux ONG qui travaillent dans ces zones-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend des pays comme le Mali ou le nord du Burkina Faso, pratiquement, c'est les ONG qui y exercent dans les centres de santé parce qu'il y a un défaut flagrant de personnel de santé. Donc, accès aux soins, on est en train de réfléchir sur des mécanismes innovants. Des mécanismes innovants pour relayer à cette insuffisance, non seulement en termes de ressources humaines en santé, mais aussi en termes de dégradation aussi des services de santé, parce que quand on investit dans ces services de santé, on se rend compte que, en même temps que l'investissement est fait, en même temps que les centres sont parfois pris d'assaut par des groupes armés pour non seulement soutirer tout ce qui existe dans ces centres-là, que ce soit la chaîne de froid ou d'autres types de médicaments qui sont utilisés à d'autres fins. Donc, par rapport aux chiffres, les chiffres que j'annonçais tantôt, c'est des chiffres de 2016-2017. Et c'est vrai qu'avant la crise, ces centres étaient plus ou moins, même s'il y avait un désert médical, ça dépend quand on est en capitale régionale, on savait quand même que les structures étaient plus ou moins bien dotées. Je donne l'exemple de Gao. Et avec les conflits au Nord Mali, en 2012, l'hôpital de Gao a été complètement déserté. La première personne qui a eu le courage de venir à l'hôpital, il s'y est installé et il s'est autoproclamé directeur de l'hôpital de Gao. Et il y est resté 3 ans directeur de l'hôpital de Gao. C'est dire simplement que avant la crise, les centres étaient plus ou moins dotés. Et en attestent les chiffres. On parlait tantôt de toi. Personnel de santé pour 10 000 habitants. Avant, on était à entre 6 et 8 personnels de santé pour 10 000 habitants. Mais aujourd'hui, on est à 3, voire 2,5. Je prends une médiane. 2,5 personnels de santé pour 10 000 habitants. Donc, c'est dire que vraiment les conflits ont été désastreux pour ces populations, sur ces contrées, sur ces villes, sur ces régions. Et aujourd'hui, on a du mal à se remettre. Adjoindre à ça aussi la typologie aussi des populations qu'on ne tient pas souvent en compte. Aujourd'hui, venir installer un hôpital fixe dans une zone comme Menaka, ça n'a pas forcément de sens, sachant que pour 6 mois de l'année ou 8 mois de l'année, les populations ne sont pratiquement pas là. Donc, il faudrait maintenant qu'on imagine d'autres façons de travailler,
s'adapter aux réalités locales,
pour peut-être mettre des unités mobiles de santé, et mettre des hôpitaux mobiles, ou en tout cas d'autres types d'actions qu'on pourrait mener pour suivre aussi les mouvements des populations et être au plus près des populations pour les soigner.
Vous dites il faudrait, ça veut dire qu'aujourd'hui on travaille sur ces hypothèses?
Oui, on travaille sur ces hypothèses, c'est toute la plus-value qu'une agence comme Expertise France peut apporter. Quand on prend l'exemple du Burkina, du Mali ou des pays qui ont mis de l'accent sur des incitations pour que les médecins puissent s'installer dans ces zones-là et travailler. On voit qu'avec les conflits, ça ne suffit plus. Même si on double le salaire du médecin, il n'est pas pressé de venir parce qu'il manque l'eau, parce qu'il manque l'école, parce qu'il manque d'autres services essentiels. Donc nous travaillons mais aujourd'hui à Expertise France sur une approche globale. Il faudrait que la santé s'accompagne aussi de l'éducation, de l'école pour les enfants, de l'eau pour la population. Donc c'est vraiment cette approche-là que nous prenons aujourd'hui au sein de l'Expertise
France. Service de base en général. Tout à l'heure, vous rendiez hommage aux ONG. Vous en êtes l'une des représentantes. Élise Le Sieur, votre association d'aide médicale Première Urgence Internationale est présente au Mali depuis 1980. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites sur place? Est-ce que les tensions, ce que les violences ont changé pour votre organisme et surtout les personnes qui y travaillent?
Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? C'est sûr qu'on travaille dans la zone d'Assongo, près de Gao, au Mali. On travaille aussi dans la zone de Kidal. C'est des zones qui sont difficiles d'accès. Oui, il y a un enjeu sécuritaire et du coup, pour nous, le principal pour une ONG telle que la nôtre, c'est de s'assurer de l'accès aux soins. Et donc, même si les aspects sécuritaires complexifient notre travail, c'est à nous de faire qu'on puisse accéder à ces populations. Comment on travaille? Du coup, on va travailler soit, on essaye au maximum de travailler en soutien et en renforcement du système de santé existant, donc avec les autorités sanitaires. Après, quand les aires de santé ne sont pas fonctionnelles, on va intervenir via des équipes mobiles. Ça veut dire un médecin, une sage-femme, un infirmier qui va s'occuper de la vaccination, quelqu'un qui va s'occuper de la pharmacie. Et du coup, nos équipes vont partir sur des durées plus ou moins longues pour accéder aux populations. On parlait notamment, est-ce que on envisage de la stratégie avancée pour aller accéder aux populations nomades? Oui, aujourd'hui, à Kidal, nos équipes partent 9 jours d'affilée. Parce que du coup, les zones sont tellement larges. Et donc, du coup, elles partent 9 jours et elles font 2 tournées par mois si la sécurité nous l'autorise. À Kidal, on est bien accepté. Comme vous l'avez dit, on est là depuis les années 80. Donc, on a une acceptance communautaire qui nous permet d'intervenir plutôt sereinement dans la zone. À Songo, on est sur d'autres problématiques, notamment liées à la criminalité. Donc, on se fait régulièrement braquer nos équipes. Donc on appuie notamment les structures de santé de l'État, où du coup notre objectif c'est de s'assurer qu'il y ait des soignants dans la structure, qu'il y ait des médicaments, que le package de soins minimum soit délivré à ces populations. Et en parallèle, on va aussi mettre en place des services mobiles pour compléter là où les aires de santé et donc les centres de santé ne sont pas du tout fonctionnels. Donc du coup, on va jouer sur ces deux types d'interventions, l'appui vraiment aux structures de santé quand elles sont existantes et de l'autre côté, garder cette approche mobile qui nous permet d'aller atteindre des populations qui n'ont pas du tout accès aux soins.
On parle des soins, on parle des territoires. Christophe Paquet, j'aimerais qu'on parle un petit peu des pathologies, un état des lieux épidémiologiques, justement pour répondre particulièrement bien à ces besoins. Qu'est-ce qu'il en est sur les zones dont on parle, 5 pays du Sahel, les grands besoins, notamment pour tout ce qui est soins primaires?
On a des fondamentaux qu'on retrouve dans tous les pays. C'est tout d'abord la santé de la mère et de l'enfant. On est aujourd'hui dans des pays où les taux de mortalité maternelle restent extrêmement élevés. Donc c'est vraiment une priorité. Les soins aux nouveau-nés aussi, puisqu'on sait maintenant que l'essentiel de la mortalité infantile survient dans la période néonatale. Donc c'est ce soin de la mère et de l'enfant nouveau-né, c'est vraiment une priorité. Donc ça veut dire des centres d'accouchement, du suivi de grossesse. Ça veut dire une possibilité d'accéder à la césarienne quand c'est nécessaire, sans que les familles se ruinent. Donc ça, c'est un premier axe très important. On a toujours une base de maladies infectieuses, la rougeole par exemple, qui évolue sur un mode épidémique qui est favorisé par les concentrations de population et les déplacements. On a du paludisme, on a toujours une mortalité infantile liée aux diarrhées, aux maladies respiratoires aiguës. La malnutrition qui sous-tend tout ça, on est dans des pays où on a parfois entre 30-40% des enfants de moins de 5 ans qui ont une malnutrition chronique, donc ce qui va favoriser ces pathologies infectieuses et ce qui, peut-être de manière plus inquiétante, va impacter les capacités de développement cognitif de ces enfants. Donc on a des problèmes aussi dans le long terme. Et puis ce qu'on voit de plus en plus, alors moins sans doute en zone rurale, mais peut-être déjà beaucoup en zone urbaine, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle les maladies chroniques, c'est-à-dire les maladies de civilisation, les maladies des pays riches, le diabète, très important dans ces pays, les cancers, les maladies cardiovasculaires, qui sont liées à la fois à une population qui vieillit et à des modes de vie qui changent, puisqu'en ville aujourd'hui, on va retrouver de la sédentarité, de la malbouffe. Et donc tout ça concourt à une sorte de double fardeau épidémiologique. On a toujours les maladies infectieuses, les maladies tropicales, mais on voit arriver aussi de nouvelles maladies qui sont très difficiles à prendre en charge et qui vont impacter sur les systèmes de santé, qui vont impacter sur les économies des États et les économies des ménages.
Avec d'autres maladies, vous parliez de ces maladies du métabolisme, il y a également la drépanocytose. Pour parler du diabète, on en voit aussi en zone rurale. Comment on fait justement quand on a une pathologie lourde sur le long terme pour avoir accès à ces soins ? Quand on est à 200 km de Bamako, quand on est à 300 km de Niamey, on fait comment ?
Aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement compliqué pour quelqu'un qui aurait un diabète nécessitant un traitement régulier, des complications, qui aurait une hypertension, qui aurait une maladie cardiaque.
Est-ce qu'on peut tout attaquer de front ? C'est ça ? Est-ce qu'on est dans le soin primaire, également sur les soins sur le long terme ? Est-ce qu'il faut prioriser ce qui pourrait être cruel pour les malades qui sont particulièrement affectés par ces pathologies chroniques ?
Clairement, je pense qu'il faut prioriser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le Sahel, je pense clairement les priorités, c'est santé de la mère et de l'enfant, avec aussi les liens avec l'accès à la planification familiale, la santé sexuelle et reproductive, la nutrition et les pathologies de base chez les enfants. Je pense que vraiment, aujourd'hui, dans le Sahel, la priorité, elle est là. Il faut commencer à mettre en place, dans certains centres de référence, que ce soit en capitale, dans des hôpitaux provinciaux, une capacité à dépister et traiter des diabètes, à dépister certains cancers, cancer du col de l'utérus par exemple, qui peut être soigné de manière relativement simple, dépister l'hypertension artérielle. Commencer déjà à mettre les bases de ces prises en charge, mais bien évidemment, on ne peut pas envisager aujourd'hui que ces prises en charge soient accessibles à toute la population de ces pays, en particulier dans les zones reculées,
malheureusement. Il y a la prise en charge, il y a aussi la prévention, là, qui peut coûter moins cher que la dispensation des médicaments pour ces pathologies lourdes. Qu'est-ce qu'il en est de cette prévention ?
Malheureusement, dans ces pays, et dans d'ailleurs beaucoup d'autres pays, il n'y a pas que dans le Sahel, très peu est fait pour la prévention de ces pathologies. La première prévention serait sans doute une lutte contre le tabac efficace, qui n'existe pas, des préconisations nutritionnelles qui ne sont pas en place, et puis aussi une lutte contre certaines pollutions. Et donc aujourd'hui, clairement, c'est des choses qui ne font pas partie, malheureusement, des programmes de santé. Et je dirais, parce que clairement, il y a aussi d'autres priorités et une situation qui fait que je crains qu'on aille, dans les années qui viennent, vraiment en se centrant sur les priorités, parce que dans cette situation de crise qui est celle qui se développe aujourd'hui, on ne pourra pas courir tous les lièvres à la fois.
Élise de Sieur, vous vouliez réagir ?
Oui, pour nous, c'est vraiment une problématique, et notamment, on parlait des services mobiles, pour la prise en charge des maladies chroniques, et notamment de la malnutrition, il y a besoin de régularité dans l'accès aux patients. Sur l'éducation nutritionnelle, c'est important pour prendre en charge la malnutrition, mais aussi pour prévenir ce type de pathologie. Donc on se doit, pour nous aujourd'hui, en tant qu'acteurs humanitaires sur le terrain, de déjà prendre en compte ces pathologies. Après, effectivement, si on regarde nos résultats dans les centres de santé qui sont fixes, où on a 90% de taux de guérison de la malnutrition, quand on est sur les services mobiles, on a des taux beaucoup plus faibles, à 40%. Donc ceci explique cela, il y a vraiment besoin de cette régularité, et il faut être près des populations.
Diouké Fofana, vous voulez réagir ?
Oui, je voulais réagir et dire que, au fait, aujourd'hui, je pense qu'il nous faut agir sur tous les leviers. En même temps, travailler sur la décentralisation de certains services. C'est ce que nous essayons de faire à Expertise France, d'ailleurs avec l'aide de l'AFD, où nous mettons à Mopti, un centre régional de drépanocytose et un centre régional de transfusion sanguine. Parce que la question du sang aussi est une question centrale aujourd'hui, où que l'on soit, où qu'on se trouve, si quelle que soit la pathologie, je pense que la question du sang est une question transversale. On essaie de travailler là-dessus. Et la lutte contre les maladies cardiovasculaires, on vient de créer le premier centre de tabacologie au Burkina Faso. Et je pense que c'est des initiatives comme ça.
Où qu'il faut au Burkina Faso?
À Ouagadougou d'abord.
À Ouagadougou.
D'abord.
Il faut commencer par quelque part.
Il faut d'abord commencer par quelque part, parce que on n'y était pas très habitué à ces centres-là. Je pense que le fait de réfléchir et mettre ces centres-là,
c'est déjà un changement de culture, un changement d'habitude.
Oui, voilà. Et autre chose, il faudrait travailler, ce que nous essayons de faire, sur le renforcement du lien de confiance entre les armées et les populations. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une certaine méfiance. Et là où les centres de santé de l'État sont défaillants, nous essayons de travailler avec l'armée pour renforcer aussi les infirmeries de garnison et ouvrir ces infirmeries de garnison aux populations. Tout ça, c'est pour favoriser l'accès aux soins, parce que là où l'État ne peut pas, et que l'armée aussi contribue à aller vers les populations à travers des unités mobiles de santé, c'est la différence aussi parfois entre nos interventions et les interventions des ONG, parce que Expertise France, c'est d'abord et avant tout le renforcement des pouvoirs publics.
Christophe Paquet, un petit mot?
Oui, pour dire que sur une pathologie comme le diabète, là aussi les ONG jouent un rôle extrêmement intéressant pour amener de nouvelles approches au Mali en particulier. Santé Diabète, qui est une ONG vraiment spécialisée sur cette pathologie, fait un travail très intéressant de prévention et de dépistage.
Qu'on connaît aussi bien parce qu'un de nos chroniqueurs, Stéphane Besançon, est le directeur de cette
voilà,
ONG.
Bah, exactement. Voilà, exactement, donc c'est lui.
Et bien Bamako toujours, hein. On va rester à Bamako pour retrouver Taïrou. Bonjour Taïrou.
Bonjour à vous, bonjour aux invités.
Vous êtes originaire du Niger, logisticien, vous travaillez sur le terrain pour différentes ONG, dans plusieurs pays du Sahel, c'est bien cela?
Oui, c'est bien cela. Donc je viens du Niger, j'y ai travaillé pendant tout le temps, après j'ai travaillé 4 ans au Burkina et depuis 2 ans au Mali.
Alors justement, entre les différents pays dans lesquels vous avez été amené à travailler, est-ce que vous avez comme ça en tête des spécificités, on va dire, nationales qui vous viennent en termes justement d'accès aux soins?
En termes d'accès aux soins, au Niger, je vais commencer par là, on est arrivé à développer un système de santé avec l'implication des populations à la base, c'est-à-dire on recrutait des agents de santé communautaire au sein même des populations, qu'on mélangeait avec d'autres agents de santé communautaire qui viennent d'ailleurs avec d'autres expériences, et qu'on formait et après qui retournaient sur le terrain pour assister les populations en termes de santé primaire. Ce système fonctionnait très bien. Au Mali, je n'ai pas remarqué cela dans le sens où ça n'a pas bien pris. Aujourd'hui, les zones en conflit, le nord, on sait déjà ce que c'est, ce que c'était. Mais aujourd'hui, dans le centre, pratiquement, vos invités ont presque tout dit. Hein. Les unités mobiles seraient vraiment la réponse pour permettre l'accès aux soins à ces populations. Parce que les relais communautaires, à mon avis, n'existent pas là-bas. Les agents de santé communautaire, il n'y en a pas. Moi, je n'en ai pas rencontré beaucoup.
Des relais mobiles, malgré, dans certains cas, certains problèmes liés au transport, liés à la sécurité sur les routes, tout ça ne viendrait pas justement empêcher l'action de ces équipes nomades?
Mais, c'est-à-dire que ça va être, normalement, ça va être des missions spontanées, comme ça. Ils ne seront pas tout le temps sur la route. Par exemple, un agent de santé communautaire va avoir 3 ou 4 villages à gérer, à lui de faire son planning et effectivement d'éviter de se retrouver dans des zones ou dans des situations et d'être confronté à l'insécurité. Le vrai problème que moi j'aimerais toucher du doigt, vos invités l'ont dit, l'accès aux soins, la santé, commence par l'accès aux soins de la mère et de l'enfant. La prise en charge de ces deux personnes, tant qu'elle n'est pas assurée, je pense que toute la chaîne en souffre. Aujourd'hui, c'est pratiquement ça le problème. Les femmes sont dans des zones d'insécurité où elles n'ont presque aucun accès aux soins à cause de cette insécurité, parce que même les centres de santé qui étaient fonctionnels sont fermés. Et le personnel de santé a dégagé, est parti, parce que c'est leur vie, ils ont tout le temps des menaces, ils se font braquer, même les ambulances se font braquer. Donc je pense qu'il faudrait trouver un mécanisme au moins à même de prendre en charge la santé de la mère et de l'enfant.
Est-ce qu'en matière justement de santé féminine, vous avez constaté sur le terrain les modifications de certaines pratiques liées par exemple à certaines injonctions de religieux radicaux par exemple? Est-ce que certains actes qui étaient prodigués hier, certains soins, aujourd'hui ne sont plus possibles dans certaines régions?
Dans beaucoup de régions, je suis sahélien, on va dire par nature, et je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de maris aujourd'hui qui sont soit réticents ou refusent catégoriquement que leur femme enceinte ou même pour d'autres problèmes gynécologiques aille au centre de santé et de voir un gynécologue pour se faire prendre en charge ou pour se faire soigner.
C'est pas davantage un problème d'accès qu'autre chose?
Non, je pense pas que ce soit un problème d'accès parce que même dans les zones où on a accès à ces soins, gratuitement à ces soins ou ces prises en charge, il y a de cette catégorie de personnes qui sont un peu limités dans leur réflexion en se disant que non, ma femme n'a pas à aller voir un médecin pour des questions gynécologiques, surtout pour des questions gynécologiques.
Merci.
Voilà, on a tendance à croire que le gynécologue, bon voilà, il profite.
Non, on n'a pas du tout cette impression-là. En tout cas, ici, à Priorité Santé, absolument pas. Je peux vous le confirmer. Merci beaucoup pour ce témoignage, Taïrou, en ligne de Bamako. Une question d'accessibilité, une question qui se pose aussi sur tout le continent, qui plus est, pour les zones de conflit, Yonke Fofana, c'est le transport, notamment l'acheminement des médicaments. Qu'est-ce qu'il en est, justement, dans ces territoires où il y a une certaine violence, où il y a des groupes armés, où il y a des militaires, pour apporter, justement, les médicaments, quand on sait déjà que dans la capitale, c'est pas évident?
Oui, c'est ça que je disais tantôt, ça se fait par l'approche intégrée et l'approche globale. Aujourd'hui, si je prends un pays comme le Mali, les acheminements se font aussi de façon sécurisée. Et chaque fois qu'il y a, en tout cas, des convois pour apporter des médicaments, soit le convoi est sécurisé par les FAMA, c'est-à-dire les forces armées maliennes, soit c'est sécurisé par Barkhane. Et dans la zone, Barkhane accompagne aussi souvent, en tout cas, les acheminements des médicaments vers les centres qui en demandent. Donc je pense que cet exemple-là, et dans les autres pays, ça ne se passe pas forcément comme ça, parce que le fait que aujourd'hui au Mali, on a une présence tous azimuts, en tout cas de forces, que ce soit des forces onusiennes, des forces de Barkhane ou des forces maliennes, et il y a une synergie d'action qui se met en place pour accompagner ces dispositifs d'acheminement des intrants. Mais il y a un autre problème, c'est que je disais tantôt qu'il faudrait qu'on réfléchisse comment adapter vraiment tout ce système aux besoins locaux et aux comportements locaux. Quand on prend une zone comme Yuwaru, on a beau avoir le matériel, en tout cas, roulant que nous voulons, on ne peut pas y accéder en période de crue. On ne peut pas y accéder parce que aucun véhicule ne peut y accéder. Donc, on réfléchit pour comment mettre en place des équipes mobiles sur des pinasses, des petits bateaux, des petites pinasses qui vont vers les populations pour non seulement amener les intrants médicaux, les médicaments, et aussi apporter des soins adéquats aux populations qui se trouvent dans ces zones-là.
Problème géographique, là on revient à notre question, la sécurité, la santé. Christophe Paquet, tout à l'heure vous avez rapidement évoqué le sort des personnes déplacées. Là c'est vraiment un problème à part, parce que il y a les personnes qui sont éloignées du système de santé, de leur centre de soins, simplement parce qu'ils ont quitté le village, qu'ils ont quitté la maison. Et en plus, ils perdent leurs repères par rapport aux installations sanitaires. Ils perdent aussi l'accès aux champs, l'accès au marché. Comment on aborde justement cette problématique particulière des personnes déplacées?
Alors là, on est clairement dans le champ de l'action humanitaire. Et c'est vrai que ces personnes alors, perdent non seulement ces différents accès, mais aussi, on pourrait parler aussi des filets de sécurité dont ils pouvaient disposer.
La famille, par exemple,
la famille, mais aussi les systèmes, alors soit d'assurance, soit d'assistance, de protection sociale, qui sont certes balbutiants, mais qui existent quand même dans un certain nombre de pays et qui n'existent plus, bien évidemment, quand les gens se déplacent. Donc effectivement, on est dans une prise en charge très très particulière et de substitution de fait pour ces populations dans la plupart des cas.
Précisément, Élise Le Sieur, vous intervenez également auprès de ces personnes déplacées?
Oui, c'est en grande partie nos bénéficiaires. Si je prends l'exemple du Nigeria aujourd'hui, où on travaille dans la ville de Maïdougouri, 2 millions d'habitants, 1,8 million de déplacés internes, du coup des gens qui n'ont pas eu accès à la santé pendant plusieurs mois. On a eu des taux de malnutrition qu'on avait rarement eu depuis longtemps en Afrique. On a eu aussi une résurgence de la polio face à des populations qui n'ont pas été vaccinées pendant très longtemps. Et on est dans une ville à Maïdougouri où les structures de santé avaient été détruites par Boko Haram avant que l'armée nigériane reprenne cette ville. Donc on est sur des problématiques là qui sont différentes, parce qu'en fait on parle beaucoup de la problématique liée aux personnes rurales, mais en fait aussi en ville. Dans le cas d'une crise, on a des populations qui ont des accès difficiles aux soins, parce qu'en fait aussi on a des structures de santé qui sont débordées par un afflux massif de déplacés. Donc du coup, il y a un enjeu qui est très fort. Et nous, on parle beaucoup d'approche intégrée, parce qu'en fait, certes, la problématique de santé est clé, mais elle n'est pas la seule. Quand on est arrivé à Maïdougouri, les gens en priorité avaient faim. Donc on a d'abord travaillé sur la sécurité alimentaire, s'assurer que ces populations avaient accès à la nourriture, et dans un second temps, effectivement, on a pu commencer à travailler avec eux sur leur santé, sur la prise en charge de la malnutrition. Et aujourd'hui, on va au-delà, on est face à aussi des épidémies de choléra dans la zone, donc on travaille aussi sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Et puis on va être dans un second temps en train de réfléchir à comment on accompagne ces populations à regagner ou avoir des moyens d'existence et de subsistance pour qu'on puisse sortir aussi d'un système d'appui très très fort. Donc nous, on essaye vraiment de prendre en charge aussi les populations de façon globale et de voir de façon globale leurs besoins. et comment en fait leurs besoins aussi interagissent et sont liés entre eux.
Alors autre point de vue, hein, pour cela on retourne à Bamako tout de suite retrouver le docteur Gédéon Kivila. Docteur Kivila, bonjour.
Bonjour.
Les organismes pour lesquels vous travaillez, internationaux et maliens, sont présents dans le nord du pays. Alors précisément, docteur Kivila, comment parvenez-vous à toucher les populations sur place et quel retour avez-vous du nord Mali?
Oui, nous sommes au Mali dans les districts de Goundam et de Diré, qui sont des districts faisant partie de la région de Tombouctou. Ouais, nous sommes à Diré depuis 2012 et à Goundam depuis 2014. L'accès humanitaire est là, mais ce n'est pas facile. Donc, nous avons développé des stratégies de communication. Nous avons fait un travail en amont pour passer des messages. C'est ainsi que nous avons été acceptés et nous travaillons dans ces coins où le contexte sécurité est difficile.
Alors, docteur Kivila, quel personnel, quelles équipes sont déployées sur place pour vos ONG?
Oui, nous avons deux sortes d'équipes pour notre ONG. Il y a des équipes internationales, fait des nationalités, c'est pratiquement des Africains. C'est des équipes internationales africaines venant de plusieurs pays de la sous-région et voire même certains des pays venant des pays de l'Afrique centrale. Et nous avons aussi des Maliens, donc des personnels nationaux qui travaillent avec nous, qui certains viennent de Bamako, qui sont donc délocalisés, et certains ils sont recrutés localement dans la région de Tombouctou.
Est-ce que vos équipes rencontrent certains problèmes, par exemple, du côté de l'acheminement du matériel?
Oui, il y a des zones d'accessibilité difficile par rapport à la sécurité. Parfois, on rencontre des problèmes, mais comme j'ai dit, c'est question du travail fait en amont, donc nous parvenons quand même à approvisionner nos équipes. Quand bien même, ce n'est pas facile, mais nous parvenons quand même à approvisionner nos équipes sur terrain.
Et du côté des stratégies avancées, sortir de ces deux villes assez importantes que vous avez citées pour aller directement auprès des populations, est-ce que c'est encore possible pour vous, docteur Kivila?
Oui, nous sommes dans les deux districts, à Goundam et à Diré. Notre équipe internationale, qui est la coordination du projet, cette équipe est basée dans la ville de Goundam, mais ils font des sorties pour aller, par exemple, au nord de Goundam, vers les localités de Zouira, Tilensi, où il y a pas mal de groupes armés. Mais il y a un travail de profilage des contacts qui ont été faits. Et avant de partir pour aller faire les cliniques mobiles ou les supervisions dans les TESCOM se trouvant dans le nord de Goundam, nous communiquons avec les autorités pour savoir si la situation est calme et on déploie des équipes pour aller travailler.
Docteur Kivila, on va vous retrouver dans quelques instants si vous le voulez bien. On a reçu d'autres témoignages sur le compte Facebook de l'émission. Il y a Omer qui est technicien de santé au Tchad qui souligne l'absence de centres de santé dans certaines régions à côté de chez lui. Au Niger, c'est Alassane lui qui dit qu'il y a des difficultés dans la région de Difa, problème de transport, problème d'accès à l'eau potable. Christophe Paquet, justement face à ces remontées assez concrètes, est-ce que vous organisez, vous préparez des actions ponctuelles par rapport à certaines régions, certaines zones, en ciblant les manques? Est-ce que vous avez justement les moyens d'avoir une vision qui évolue au fur et à mesure des événements dans ces régions un petit peu, dans certains cas, un petit peu hors de contrôle?
Alors, l'Agence française de développement donc n'est pas une ONG, n'intervient pas directement sur le terrain, mais va financer les politiques publiques des États. Donc en fait, nous travaillons vraiment en articulation, en concertation avec les ministères de la Santé dans ces régions et aussi en complémentarité avec ce que font les autres bailleurs de fonds. Je vais prendre un exemple puisqu'on parlait de la région de Difa. On finance actuellement au Niger un programme de santé des femmes et des jeunes filles qui comporte un volet qui vise à maintenir à l'école les jeunes collégiennes De façon, entre autres, à retarder l'âge du mariage et donc
de
la première naissance, dont on sait qu'il y a bien évidemment souvent des complications importantes. Donc ce programme passe par la distribution d'allocations aux familles qui ont des jeunes filles d'âge scolaire qui sont au collège, et donc ces allocations sont distribuées régulièrement tous les mois par le système nigérien de distribution de ces transferts monétaires. Dans la région de Diffa, donc tout ça a été fait par des motos. Et puis, à cause de la dégradation des conditions de sécurité, il est maintenant interdit de se déplacer à moto dans cette région. Et donc, on a dû interrompre ces programmes de filets sociaux parce que ça aurait été trop coûteux de faire ces distributions avec des voitures. Donc, on a recentré ces programmes sur d'autres régions du pays où on pouvait continuer à financer cette politique de l'État nigérien qui est de distribuer ces allocations aux familles avec des moyens qui, logistiquement et en termes de sécurité, étaient compatibles avec l'environnement. Donc en fait, le travail des bailleurs de fonds et des États, c'est réellement de s'adapter et d'organiser les choses en tenant compte de ces différentes contraintes.
Des différentes contraintes, on l'a vu, capacité d'adaptation. Autre volet important, c'est de vérifier que l'argent investi, vous disiez aussi, on est un bailleur de fonds, dans des situations aussi volatiles, que cet argent arrive entre les bonnes mains et ne serve pas par contre-coup à, au contraire, financer ce contre quoi vous battez, à savoir la violence, l'insécurité et la précarisation de ces populations vulnérables.
Absolument, absolument. Ça, c'est vraiment une des grandes préoccupations qu'on peut avoir hein, dans ces environnements très volatiles. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est réellement à essayer de changer la vie des gens au quotidien, donc de toucher les gens au plus près. Et donc ces systèmes de transfert monétaire, d'allocation, visent à cela, visent à réellement, on donne de l'argent aux gens très concrètement, ce qui leur permet de faire face à une période de soudure, d'accéder à des soins, puisque les systèmes de santé sont pas toujours gratuits, ou même quand ils sont gratuits, il faut payer du transport et d'autres choses. Et on a vraiment un moyen très efficace de lutter contre la pauvreté. Mais évidemment, il faut s'assurer que les bénéficiaires sont bien les bons bénéficiaires, et qu'on n'a pas de détournement. Et c'est un travail, je dirais, de tous les instants dans le cadre de la gestion d'un projet de ce type, avec des audits, avec des évaluations, avec un suivi financier très très précis.
Docteur Gédéon Kivila, on vous retrouve en ligne de Bamako. Tout à l'heure, on a décrit la situation sur place, un certain nombre de carences. Alors, au-delà de l'état des lieux, quelle piste, justement, pour améliorer le sort de la population? Vous espérez quoi? Vous tablez sur quoi, justement, pour le Mali?
Pour le Mali, Alima ANCT intervient dans la partie nord. Il y a un problème d'accès géographique aussi dans la partie nord de Bundab, où nous trouvons la population nomade. Certains sont très loin situés par rapport au CESCOM ou les centres de santé communautaires. Donc, nous essayons de faire des cliniques mobiles pour aller à l'encontre de ces populations pour leur donner un accès aux soins. Donc, il y a cette difficulté. Et puis, dans la partie nord, on a pas mal de groupes armés, ce qui fait qu'il y a insuffisance des ressources humaines déployé par le ministère de la Santé, parce qu'il y a pas mal des agents qui n'acceptent pas d'aller travailler dans ces coins pour raisons de sécurité. Donc nous, à Lima, on essaye d'aller combler ces vides et travailler avec le personnel du ministère qui sont sur place.
Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de priorité santé. On l'a compris, double problématique, accès aux soins, mais aussi accès aux populations. Docteur Gédéon Kivila, je rappelle que vous êtes chef de mission pour l'Alima au Mali, coordinateur général du projet commun Alima AMCP avec l'ONG malienne Alliance Médicale contre le Paludisme. Dioké Fofana, on pointe depuis le début de l'émission les risques, les carences, les difficultés, mais il y a également des investissements concrets. Il y a des hôpitaux qui se construisent, certains ont été détruits en région lors d'assauts armés, mais il y a aussi des projets et des chantiers en cours.
Oui, il y a beaucoup de chantiers en cours. Je pense que tous les pays ont compris maintenant la nécessité vraiment de mettre un plateau technique conséquent et amélioré pour favoriser l'accès aux soins. Et c'est le cas au Mali, c'est le cas au Niger, on voit que des hôpitaux se construisent. Et dans le centre du Mali, avec le concours de l'AFD et la coopération belge, on a construit un nouvel hôpital. Bon, ça date de maintenant il y a 2 ans, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne suffit pas de construire des hôpitaux. Il faut le personnel, il faut les intrants, ça ne suffit pas non plus. Il faut un vrai renforcement des capacités. Aujourd'hui, en termes de gouvernance, je pense que vous disiez tantôt, il faut qu'on s'assure que ce qu'on dépense aille vraiment aux bénéficiaires. Et pour qu'on s'assure de ça, il faudrait que la construction de ces hôpitaux s'accompagne aussi de la mise en place d'une bonne gouvernance dans ces hôpitaux. Rares sont les hôpitaux aujourd'hui dans ces zones-là qui disposent d'un vrai projet d'établissement, d'un vrai projet médical. La culture de la redevabilité n'est pas toujours au rendez-vous. Donc nous essayons au niveau d'Expertise France, c'est le fait que nous ayons plusieurs départements qui interviennent également non seulement dans le domaine de la gouvernance économique et financière. Donc on essaie partout où on veut construire des hôpitaux, on essaie de faire participer tous les autres départements qui viennent avec leur savoir-faire pour accompagner cette dynamique-là de gouvernance hospitalière, afin que, la gestion de l'hôpital soit une gestion saine et qu'on ait une visibilité à long terme, 3 ans, 4 ans, sur là où on veut aller, avec quelles recettes, avec quel budget, avec quelles ressources humaines, avec quel plan de maintenance aussi pour les équipements qu'on installe. Parce que la plupart du temps, on met de beaux équipements, mais au bout d'un an, les équipements sont en panne, il n'y a pas de politique de maintenance pour maintenir ces équipements. Et on retourne toujours à la case de départ.
Une question qu'on souligne très souvent dans l'émission, hein, ce fameux problème de la maintenance avec l'espèce de cimetière des éléphants dans un coin de l'hôpital où il y a tous ces appareils qui dorment et qui ne peuvent pas être utilisés.
De beaux éléphants blancs, mais je pense que avec toutes les stratégies qui commencent à se mettre en place, en tout cas avec l'AFD, nous sommes investis dans beaucoup de pays et où, partout où on construit, on essaye de renforcer substantiellement la gouvernance hospitalière.
On arrive à notre conclusion. Hein. Est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression que quoi qu'il arrive, il y a eu le sursaut sécuritaire quand il y a eu les attaques, quand il y a eu les attentats, quand il y a eu la guerre au cœur de la guerre, mais malgré tout aujourd'hui, est-ce que la santé, c'est pas toujours au second plan, Élise Le Sieur? Est-ce que vous avez cette impression ou vous avez l'impression qu'il y a un changement qui s'opère aujourd'hui de dire reconstruire au pays, c'est peut-être le sécuriser, mais c'est aussi mettre des bases en termes d'éducation, en termes de santé publique?
En fait, les besoins des populations, elles sont claires. Qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent avoir un centre de santé à côté de chez elles. Elles ont envie d'avoir accès à l'eau pour boire, pour l'assainissement, mais aussi pour leur terre, pour leur bétail. Donc, les populations, elles sont assez claires sur ce qu'elles veulent. Et nous, on considère, à Première Agence Internationale, que l'accès aux services de base, c'est aussi ça qui permettra aussi l'apaisement et la sécurisation de certaines zones. Après, je pense qu'aussi, il faut pas qu'on oublie, en dehors de ces zones sécuritaires, quand ça s'est apaisé, qu'est-ce qui se passe derrière? Nous, on est un acteur humanitaire, mais on s'arrête pas là. On essaye de soutenir et de renforcer les systèmes de santé. Je pense à la zone est du Tchad, où aujourd'hui, on a des indicateurs de santé qui sont assez faibles. Et nous, on soutient aujourd'hui près de 22 centres de santé. On fait plus de 100 000 consultations. On appuie près de 100 000 consultations annuelles dans ces zones-là. Et en même temps, c'est des zones qui ont été, comme c'est en train de s'apaiser, ben, il y a plus de fonds humanitaires. Et il n'y a pas encore de fonds de développement. Et comment on accompagne aussi ces zones? L'accès aux services de base, c'est ça aussi qui permettra, je pense, une stabilisation. Et c'est vraiment un droit d'accéder aux soins. Donc c'est à nous, acteurs humanitaires, de s'assurer aussi que c'est fait. Mais en parallèle, n'oublions pas les zones qui sont en train de se stabiliser et qui ont encore besoin d'appui pour vraiment confirmer tout l'appui qu'on a pu faire ces dernières années.
Christophe Paquet, plaider au long cours pour que la santé ne repasse pas au deuxième plan?
Je pense qu'on vient d'une situation qui est très ancienne, hein, qui date de bien avant les crises. Les systèmes de santé ont commencé à être cassés pendant les années 90 pour des raisons économiques mal comprises. On a parlé des ajustements structurels, etc. Ou que ce soit la santé, l'éducation étaient perçus comme des centres de coûts pour les États.
Et alors que tout ce qui a été prouvé plus tard, c'était que c'était des investissements.
C'est
qui
des
rapportaient.
Investissements, mais je suis pas persuadé que tout le monde en soit convaincu aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, bon, on a basculé dans un discours qui est beaucoup plus compassionnel, beaucoup plus humanitaire, qui repose beaucoup sur l'aide internationale, qui certes joue un rôle, mais je pense qu'il y a une troisième voie. Et la troisième voie, c'est réellement que au niveau de chacun de ces pays, on ait une vraie prise de conscience de l'importance des secteurs et de vrais investissements nationaux, que ce soit économique, en personnel, d'appui politique. Et réellement, c'est la clé pour que les choses changent. Et puis, je dirais que la communauté internationale accompagnera ce mouvement, mais s'il n'est pas là, on aura du mal à réellement changer les choses.
Une politique de réappropriation. Merci à tous les trois d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Merci à vous, Élise Le Sieur, responsable santé au siège de Première Urgence Internationale. À vous, Dionke Fofana, responsable du pôle renforcement des systèmes de santé à Expertise France. Et à vous, Christophe Paquet, responsable de la division santé et protection sociale de l'Agence française du développement. Et tout de suite, suite dans Priorité Santé, on parle activité physique et santé avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Docteur Sen, vous allez nous parler d'une étude récente, elle s'appelle Attitude Prévention avril 2018. Elle a été conduite dans 8 pays. Son objectif, c'était d'évaluer le niveau de sédentarité des Européens et aussi leur degré de connaissance des méfaits de cette sédentarité. Alors, quelles sont les grandes conclusions de cette étude?
La première conclusion, c'est que le niveau de sédentarité est élevé. Les Européens passent en moyenne 7h26 assis par jour. Ça fait plus de 50 heures par semaine. C'est plus de 2 jours où les personnes sont assis ou allongées. C'est gigantesque. C'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Alors, il faut savoir qu'on est sédentaire, hein, par définition, si on reste plus de 7 heures assis par jour. L'autre conclusion, c'est que c'est inégal selon les pays. Par exemple, en Finlande ou aux Pays-Bas, eh bien, le temps passé, justement, est en dessous de la barre des 7 heures, 5h30 et 6h13 respectivement. Et puis les Britanniques, c'est les mauvais élèves, ils ont une sédentarité beaucoup plus marquée avec 8h13 de temps passé assis. Les Français, pour leur part, se situent dans la moyenne européenne, même s'ils sont l'antépénultième de la liste des 8 pays étudiés.
Les avant-derniers.
Les avant-derniers.
Voilà, avant-derniers. Pour le grand public et pour moi-même, c'est plus simple à comprendre. Alors, niveau de sédentarité élevé, mais est-ce que les Européens sont bien informés sur ces fameux risques de la sédentarité?
La sédentarité, il faut le rappeler, ont des risques pour la santé, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète, la dépression, l'anxiété et les cancers. Alors, 72% des Européens ignorent un ou plusieurs de ces risques cités. Alors, les risques les plus méconnus sont ceux pour le cancer, les troubles psychologiques, dépression, anxiété et le diabète. On peut dire que là aussi il y a une disparité. Les Finlandais sont bien informés alors que les Allemands et les Italiens bien moins.
Alors, docteur Sen, qu'est-ce que vous retenez d'autre dans cette étude, dans ces conclusions?
L'autre chose, c'est que pendant leur temps libre, les Européens ont surtout des activités sédentaires. Leurs 3 activités de loisirs préférées, c'est Internet, des promenades et puis les films, émissions ou séries devant la télévision. Ça veut dire 2 activités sédentaires et une seule activité physique qui est la promenade. L'autre chose, c'est que les espaces adaptés aux activités en plein air, les infrastructures aussi pour faire du sport, eh bien là, on a un clivage entre les pays du nord de l'Europe où les Européens du nord pensent avoir des infrastructures suffisantes, alors que c'est pas le cas pour ceux qui sont dans le sud. Et puis enfin, les jeunes, les 18-35 ans, ils se démarquent de leurs aînés parce qu'ils passent plus de temps en moyenne assis chaque jour. 8h19 contre 6h53 pour les plus de 50 ans. Et ça, c'est absolument catastrophique. Et on doit retenir que justement ces jeunes se sentiraient plus incités à faire l'activité physique s'ils avaient accès à des espaces adaptés.
Alors, on a parlé sédentarité, maintenant on va parler conseils. Quelles recommandations, docteur Jean-Marc Sen, pour nos auditeurs en termes d'activité physique pour la santé?
L'idée, c'est de faire au moins 30 minutes d'activité, d'endurance, activité physique modérée, 5 fois par semaine. Donc, par exemple, la marche, ça c'est une très bonne chose. En complément, il ne faut pas hésiter à faire un peu de renforcement musculaire, parce qu'on sait que ça va développer la masse musculaire 1 à 2 fois par semaine. Il faut aussi développer sa souplesse 2 à 3 fois par semaine en faisant des étirements, et puis il faut favoriser les activités physiques en extérieur, exposé à la lumière du jour, parce que cela permet justement, entre autres, de favoriser le rythme veille-sommeil. Et puis, il faut, augmenter l'activité physique, et puis deuxième chose, diminuer le temps, comme on vient de le dire, de sédentarité, c'est-à-dire on reste en position assise ou allongée. Donc, au bout de 2 heures d'affilée, bouger un petit peu, faire quelques mouvements, activer ses muscles, ses articulations, pour pouvoir lutter contre cette fameuse sédentarité.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo, et à très bientôt. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Assez Toussamaké, Ophélie Lassène et Didier Bleu. Demain, nous parlerons de la DMLA à l'occasion de la Journée mondiale de la macula. On se retrouve donc demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.